La pensée charnelle et la mort. Romains chapitre 8, versets 4 à 14. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les pensées charnelles et les pensées spirituelles. Jésus-Christ, en étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui tous les péchés du monde en une seule fois, en portant ses péchés, en mourant sur la croix et en ressuscitant, a accompli l'exigence juste de la loi donnée à l'humanité, à savoir que le salaire du péché c'est la mort, c'est-à-dire la justice de Dieu. Nous poursuivons notre vie de foi en croyant en cette grâce qui nous sauve du péché. Et comme l'a témoigné l'apôtre Paul, nous avons reçu la rémission des péchés avec l'assurance qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Concernant la manière dont nous devons vivre après avoir reçu un tel salut, l'apôtre Paul transmet spécifiquement un précieux enseignement du point de vue de la différence de pensée. Romains chapitre 8, verset 5 dit que ceux qui suivent dans la chair pensent aux choses de la chair, et ceux qui suivent dans l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Cela signifie que celui qui suit la chair et celui qui suit l'esprit coexistent en nous. Le verset suivant, le verset 6, précise « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ici, « esprit » signifie Dieu, et « chair » se réfère à nos propres pensées ou à l'esprit qui poursuit le confort physique. L'esprit et la chair sont des entités aussi distinctes que la différence entre Dieu et l'homme. Bien que nous ayons clairement obtenu le salut en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit, même dans la vie après la nouvelle naissance, cette différence de pensée devient un facteur très important qui détermine si elle nous sauve ou nous tue. Les saints nés de nouveau doivent profondément garder à l'esprit que la pensée spirituelle apporte la vie et la paix, mais que la pensée charnelle conduit finalement à la mort. Nous avons été sauvés en croyant à l'évangile selon lequel le Seigneur est venu sur cette terre, a pris tous nos péchés par le baptême et est mort en versant son sang sur la croix, recevant ainsi à notre place le châtiment du péché. Par conséquent, la vie après le salut ne doit pas s'arrêter simplement à croire au sang de la croix, mais doit devenir un processus où l'on jouit de la véritable vie et de la paix que le Seigneur donne en rejetant les pensées charnelles et en suivant les pensées spirituelles. Le problème le plus important auquel nous faisons face après être nés de nouveau est de savoir si nos pensées sont dirigées vers l'esprit, c'est-à-dire si nous pensons à Dieu. Dans le passé, nous vivions en poursuivant uniquement le confort physique, comme la nourriture, les vêtements et le logement, en essayant simplement de bien vivre et de bien manger. Cependant, après être nés de nouveau, au-delà du simple problème de survie, la question devient de savoir si nous pensons réellement à Dieu ou si nous pensons encore seulement au bien-être de notre propre chair. Les humains sont constitués d'esprit, d'âme et de corps. Ici, la pensée responsable de l'intellect et du raisonnement correspond à l'âme. Le corps est poussière et Dieu est esprit. Par conséquent, le succès ou l'échec de la foi est déterminé par le fait que nous regardions Dieu avec des pensées spirituelles ou que nous regardions uniquement notre propre chair avec des pensées charnelles. L'apôtre Paul a clairement souligné « Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Penser à Dieu et se préoccuper du ministère de Dieu est le chemin pour obtenir la vie, jouir de la paix et demeurer dans la bénédiction de Dieu. Si nous pensons d'abord à Dieu et à son ministère, nous suivons naturellement ce chemin et participons finalement à l'œuvre précieuse de sauver des âmes Lorsque nous vivons une vie en suivant les pensées spirituelles, notre âme, notre cœur, nos pensées et même notre corps peuvent jouir de la véritable paix et de la bénédiction que Dieu donne. Inversement, il y a des personnes qui oublient Dieu, même après être nées de nouveau, et vivent en ne pensant qu'à la chair. C'est une vie dont le but est seulement de savoir comment s'élever charnellement, comment régner sur les autres et comment vivre dans l'abondance matérielle. La Bible avertit que de telles pensées charnelles aboutissent finalement à la mort. Même si une personne est née de nouveau, si elle vit captive des pensées charnelles, elle finit par quitter Dieu, s'opposer à Dieu et finalement tomber dans le chemin de la destruction. Vivre une vie de foi avec des ambitions charnelles comme devenir un donateur qui donne aux autres ou se tenir dans une position de domination est un chemin dangereux qui se précipite vers la mort spirituelle. Cette parole est un principe strict qui s'applique à nous tous sans exception. Elle s'applique également à toutes les générations, depuis tous les saints et ministres qui croient à l'évangile de l'eau et de l'esprit, jusqu'aux ouvriers de l'église, frères et sœurs, et des enfants de l'école du dimanche aux collégiens, lycéens, jeunes adultes, adultes et personnes âgées. Les travailleurs en formation et tous les membres de l'église doivent profondément réaliser le fait que la pensée charnelle est la mort. Nous ne devons pas oublier que selon la manière dont nous gérons nos pensées, il est décidé si nous maintenons la foi et recevons des bénédictions comme ouvriers de justice, même après être nés de nouveau, ou si nous sommes engloutis par la chair et périssons. Après avoir reçu le salut, chacun peut avoir un cœur qui souhaite que la chair devienne économiquement abondante pour vivre confortablement, ou donner généreusement des cadeaux et dépenser largement lorsqu'il rencontre quelqu'un. Honnêtement, en vivant dans ce monde, il était naturel pour quiconque d'avoir le désir de vivre en partageant généreusement plutôt qu'en recevant simplement de l'aide des autres, même après être né de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Notre chair veut instinctivement devenir une personne qui donne plutôt que d'emprunter, et veut devenir la tête qui domine plutôt que la queue qui est dominée. Cependant, si les personnes nées de nouveau vivent uniquement avec ces pensées charnelles, cela devient finalement un chemin menant à la mort. Parce que la pensée charnelle est uniquement pour sa propre chair et ne poursuit que cette direction, elle conduit inévitablement à la mort. Si quelqu'un s'enfonce profondément uniquement dans la chair sans penser au ministère de Dieu ni à Dieu lui-même, il finit par subir la destruction. Cela entraîne comme conséquence que non seulement soi-même meurt, mais aussi d'innombrables personnes qui auraient pu être sauvées par soi périssent ensemble. Par conséquent, la Bible avertit sévèrement que la pensée charnelle est la mort. Nous pouvons confirmer ce fait à travers les personnages bibliques qui ont quitté le chemin de la foi pour se tourner vers le monde. Et un exemple représentatif est Lot, le neveu d'Abraham. Lot était une personne qui suivait son oncle Abraham, croyait en Dieu et a commencé en s'appuyant sur la parole même dans une situation où il ne savait pas où aller, quittant son pays, ses proches et la maison de son père. Pendant que le groupe d'Abraham poursuivait son voyage, l'apparence de Sarah, la femme d'Abraham, était si belle qu'elle devint un grand sujet parmi les rois et les tribus du monde. Lorsque des rumeurs selon lesquelles des gens tentaient de gagner la faveur du roi en offrant une belle femme parvinrent aux oreilles d'Abraham, il fut saisi d'une grande peur d'être tué. Finalement, Abraham s'entendit secrètement avec sa femme pour s'appeler frère et sœur au lieu de mari et femme. Abraham demanda instamment à sa femme que c'était la meilleure bonté qu'elle pouvait lui montrer et de dire cela si elle l'aimait vraiment. Sarah promit de le faire, acceptant la proposition de son mari avec un cœur aimant son mari et une ferme détermination de préserver sa vie. Les officiers du roi virent la beauté de Sarah et la louèrent grandement, la prenant dans le palais. Lorsqu'on lui demanda son origine familiale, Sarah répondit qu'elle avait un frère aîné et un neveu, comme Abraham l'avait proposé. Voyant cela, le roi fut très satisfait et accorda de riches récompenses à la maison d'Abraham. Cependant, Dieu intervint strictement dans cette affaire. Il apparut dans le rêve du roi pour l'avertir, faisant tomber une grande peur sur lui. Finalement, lorsque le fait qu'Abraham était son mari fut révélé, le roi les renvoya en hâte. Dans ce processus, Abraham acquit d'énormes richesses et son neveu Lot devint également un homme très riche avec son oncle. À mesure que leurs biens augmentaient, et que leur bétail se multipliait, des querelles commencèrent à surgir entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot à propos des pâturages limités. À ce moment-là, le cœur de Lot se remplit de pensées charnelles. Le cœur qui autrefois dépendait de son oncle disparut, et maintenant qu'il possédait beaucoup de biens, il commença à considérer son oncle comme un fardeau. Le désir de se séparer de son oncle et d'être indépendant s'empara de lui. Abraham tenta de maintenir la paix, mais Lot, aveuglé par le profit charnel, perdit ses bonnes manières et s'opposa à lui. En voyant cela, Abraham se lamenta de voir Lot ne penser qu'au confort charnel plutôt qu'à la foi et déclara la séparation. Lorsqu'Abraham donna à Lot le droit de choisir en disant « Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche », l'eau choisit la plaine du Jourdain qui paraissait fertile comme le jardin de l'Éternel à ses yeux charnels. Parce que c'était un environnement parfait pour que le bétail prospère avec une herbe abondante et beaucoup d'eau, l'eau choisit sans hésitation cette vaste plaine et partit. D'un autre côté, Abraham se dirigea vers une région montagneuse, aride et rocailleuse. Le chemin que Lot avait choisi semblait brillant extérieurement, mais c'était l'endroit où se trouvaient Sodome et Gomorre, pleines de péchés. Ce choix suivant les pensées de la chair annonçait déjà le résultat d'une mort misérable. Finalement, Lot vécut en jouissant d'un statut mondain dans le pays de Sodome, mais perdit complètement l'influence de la foi en Dieu. Se souilla avec le monde et fiança ses filles à des gens du pays. Lorsque Dieu fit descendre un jugement de feu pour juger les péchés de Sodome, l'autorité spirituelle de Lot était tombée au plus bas, de sorte que ceux qui devaient devenir ses gendres prirent son avertissement pour une plaisanterie. Bien que Dieu ait eu pitié de Lot et l'ait délivré de la destruction, il perdit à la fois sa femme et ses biens. Sa vie se termina dans la tragédie, tous ses efforts étant consumés, ne laissant que des traces honteuses avec ses filles. La parole selon laquelle la pensée charnelle est la mort se manifeste clairement même dans l'aspect concret de nos vies. Nous pouvons en trouver des exemples non seulement chez les personnages bibliques, mais aussi dans la réalité qui nous entoure. Quelqu'un a provoqué des conflits par son immaturité personnelle et son attitude égoïste, bien que l'Église et les saints lui aient fourni un environnement pour un ministère indépendant après le mariage. Le fait de blesser le cœur de sa femme enceinte en mangeant seule la collation qu'elle voulait, sans en partager même une part, montre une manière de penser centrée sur la chair, totalement dépourvue de considération et de générosité envers l'autre, au-delà d'un simple problème de nourriture. Agir uniquement de manière égoïste sans former un caractère qui sait prendre soin des autres et donner devient finalement un raccourci vers la rupture de l'harmonie et la destruction des relations. Si quelqu'un accepte humblement que ses fautes soient signalées et se repent en pensant au ministère de Dieu, il y aura une croissance dans la foi. Cependant, une personne captivée par les pensées de la chair ne brise pas son entêtement jusqu'à la fin. L'attitude qui pense à Dieu et place la valeur du salut des âmes en priorité est mise de côté. Et l'attitude égoïste qui ne cherche qu'à réussir soi-même et à être bien traité conduit finalement à la destruction spirituelle. Même si une personne est née de nouveau, si elle reste entièrement dans des pensées égoïstes de la chair en oubliant Dieu et son ministère, cela n'est pas différent de la mort. D'autre part, la pensée de l'esprit considère tout avec un cœur qui aime Dieu, elle apporte donc la véritable vie et la paix et fait jaillir une belle harmonie au sein de la communauté. Même au sein de l'Église, ceux qui suivaient uniquement les pensées de la chair ont finalement montré l'apparence de quitter Dieu. Bien qu'ils aient été confiés à des positions précieuses au service de l'Évangile et aient reçu des opportunités d'être établis malgré leur manque de capacité, ceux qui oublient cette grâce et mettent en avant uniquement leur propre intérêt et jugement détruisent l'ordre de la foi. C'est un état spirituellement très dangereux que de nourrir un cœur orgueilleux, en prenant pour son propre mérite les résultats obtenus grâce à l'aide et au dévouement des frères et sœurs. En prenant ces cas comme un miroir, nous devons constamment vérifier vers où se dirigent nos propres pensées en ce moment, et nous devons avancer non pas sur le chemin de la mort en suivant la chair, mais sur le chemin de la vie en suivant l'esprit. Lorsqu'une tâche importante est confiée à quelqu'un, il arrive qu'il réponde extérieurement qu'il a compris, mais qu'il n'y ait aucune nouvelle ni rapport même après qu'un mois se soit écoulé. Il faut rendre compte de l'avancement et communiquer s'il y a des difficultés afin que des annonces soient le fait et que des mesures soient prises. Mais comme il n'y a presque aucun progrès pendant près d'un an, la frustration ne peut qu'augmenter. Malgré d'énormes investissements dans un ministère important visant le monde, l'apparence de cette personne vivant confortablement sans aucun sens des responsabilités, même après avoir produit un résultat désastreux avec seulement quelques participants, suffit à susciter l'indignation publique. Même lorsqu'il est réprimandé pour éveiller la valeur de ce ministère précieux, une attitude insolente consistant à fixer du regard et à répondre au lieu de réfléchir est difficile à considérer comme celle d'une personne de foi. Un fait encore plus choquant est l'arrogance de tenter d'ignorer les cohortes juniors et de régner sur elles en mettant en avant le fait d'être issu de la première promotion de l'école missionnaire. Essayer d'établir son autorité uniquement sur le fait d'avoir commencé le premier, sans aucun fruit réel, n'est qu'une vantardise charnelle qui n'a aucun sens devant Dieu. Finalement, cet égoïsme et cette arrogance atteignirent un extrême, conduisant à une situation sans précédent où l'on exigea le remboursement des offrandes données à Dieu jusqu'alors en les calculant une par une. Depuis la création du monde, demander à récupérer les offrandes données à Dieu serait sans précédent, mais afin d'empêcher que son attitude incrédule et celle de sa famille ne causent des troubles dans l'Église, la somme importante a été calculée avec précision et rendue, et la relation a été rompue. Finalement, cette personne choisit la voie mauvaise en quittant la vérité, niant jusqu'à la fin que l'évangile de l'eau et de l'esprit était faux. L'apparence d'une personne qui devrait se consacrer à l'évangile, mais qui au contraire s'y oppose et met l'argent en avant pour partir, montre de manière flagrante la fin misérable de celui qui suit les pensées de la chair. Agir de manière mauvaise en mettant en avant uniquement son propre intérêt et son orgueil, sans penser à l'œuvre de Dieu, est finalement un chemin qui mène à la mort et un acte qui laisse une grande cicatrice dans la communauté. Ce cas nous avertit sévèrement une fois de plus à quel point les conséquences sont terrifiantes lorsque l'on est capturé par les pensées de la chair, même après être né de nouveau. Le danger de l'ambition charnelle est la puissance de la pensée spirituelle. Lorsque la pensée « si j'ai seulement de l'argent, ma famille pourra bien manger et bien vivre » se combine avec l'arrogance de « pourquoi devrais-je entendre des reproches ?», on finit par être capturé par des pensées charnelles. Se croyant intelligent, on peut à tort penser que l'on pourra régner en sortant dans le monde, mais la réalité à laquelle fait face celui qui nie l'évangile et part n'est jamais facile. Les gens pensent que 100 millions de wons est une somme très importante. Mais en réalité, si l'on obtient une location en jonce dans une grande ville et que l'on équipe une voiture et des biens ménagers, sa valeur disparaît rapidement et devient insignifiante. Néanmoins, quitter l'évangile en étant enfoui dans la pensée que l'on peut bien vivre uniquement selon la chair est le résultat ou l'avertissement de la Bible, car l'affection de la chair, c'est la mort. Romains chapitre 8, verset 6, se manifeste exactement tel quel. La pensée de vouloir vivre uniquement pour la chair est le chemin de la mort, et c'est une réalité solennelle qui s'applique à nous tous, y compris moi. En vivant dans le monde, des pensées charnelles surgissent, nos cœurs sont blessés, et il y a certainement des moments où nous nous mettons en colère parce que les choses ne correspondent pas à notre manière de faire. Cependant, nous croyons au fait que le Seigneur nous a clairement sauvés, qu'il vit encore maintenant dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que cet évangile a le pouvoir de sauver les gens. Par conséquent, même si nous avons une chair, nous ne pouvons pas vivre uniquement pour des objectifs charnels. Les pensées charnelles apportent la mort, mais les pensées spirituelles qui pensent à Dieu et à son œuvre nous apportent la véritable vie et la paix. Même une personne née de nouveau, si elle reste uniquement dans des pensées charnelles, finira par mourir spirituellement et quitter l'Église. Ceux qui ont terminé l'école missionnaire et ont été envoyés sur les champs de mission, mais sont partis en invoquant des excuses charnelles comme devoir soutenir leurs parents. Ou ceux qui n'ont pas pu garder leur position parce qu'ils étaient capturés par des pensées charnelles malgré le fait qu'ils aient reçu la charge d'évangéliste en sont la preuve. Du point de vue charnel, leurs circonstances peuvent sembler compréhensibles, mais ils sont finalement partis parce qu'ils n'avaient pas la pensée spirituelle de penser à Dieu. Si l'on pense à l'esprit et que l'on se souvient d'abord de Dieu et de son ministère, une force surgit pour s'aider, comprendre et endurer même dans des situations qui ne sont pas agréables charnellement. Nous vivons tous en faisant des choix entre la voie de la chair et la voie de l'esprit, même en ce moment. Si nous tous, y compris les ministres, cherchons uniquement la voie pour faire vivre notre propre chair et donnons la priorité seulement au confort de la chair, la raison de marcher sur ce chemin de foi disparaît. Et nous finirons inévitablement par faire face à la mort spirituelle. Ce n'est que lorsque nous portons un cœur spirituel en pensant à Dieu et aux âmes qui ne sont pas encore sauvées que nous pouvons vaincre la chair et demeurer dans l'œuvre de vie et de bénédiction que Dieu donne. Si quelqu'un tombe profondément dans des pensées charnelles, il finit par nourrir des doutes en se demandant « Cet évangile est-il la seule vérité ?» et atteint l'état où il considère la vérité à la légère et la méprise. Parce que les pensées charnelles sont la mort, dans un tel état, il est impossible de parvenir à une union spirituelle avec ceux qui nous ont précédés. Si l'on juge strictement d'un point de vue charnel, écouter quelqu'un de plus jeune ou moins expérimenté que soi peut sembler blessant pour l'orgueil et déraisonnable. Cependant, si nous regardons Dieu avec des pensées spirituelles, la situation change. Si nous pensons à la grâce de Dieu qui m'a sauvé et nous rappelons les innombrables âmes qui ne sont pas encore sauvées, nous réalisons que la raison pour laquelle ceux qui sont devant nous exhortent n'est pas simplement une émotion personnelle, mais pour accomplir pleinement l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on se concentre sur des pensées spirituelles, tout est compris et accepté, et finalement la vie et la paix viennent. Même de petites suggestions comme « ne travaillons pas seuls, mais unissons-nous » ou parfois « partageons la nourriture pour reprendre des forces » sont perçues comme une considération pleine d'amour pour bien accomplir l'œuvre de Dieu. Un cœur capable d'obéir et de suivre ne naît que lorsque l'on pense de manière spirituelle. Si l'on reste uniquement dans des pensées charnelles, on interprète mal les intentions des autres et on devient incapable de briser son propre cœur. Finalement, une personne qui ne peut pas briser son propre cœur quitte les rangs de la foi en suivant des pensées charnelles. Et cela n'est pas différent d'avancer sur le chemin de la mort et de la destruction. Il en est de même pour les sœurs dans l'Église et pour tous les saints. Si l'on est capturé par des pensées charnelles, on devient pessimiste quant à sa situation, ou l'on développe un cœur impatient conforme aux standards du monde. À l'âge le plus actif, si l'on s'incline vers des désirs charnels, en ne regardant que les questions de mariage ou les réalités matérielles, ce chemin de foi que l'on parcourt paraît insensé. Et finalement, on tombe dans la tentation de tout abandonner et de partir. Moi-même, il m'arrive aussi parfois d'avoir des moments où une colère accumulée éclate lorsque je regarde l'Église et l'œuvre de Dieu avec des yeux charnels, et où surgit un cœur voulant juger les autres en mettant en avant les capacités et l'honneur humain. Si j'étais resté uniquement dans de telles perspectives et une telle gestion charnelle, moi aussi j'aurais quitté l'Église et serais devenu quelqu'un qui s'oppose à l'Évangile. La différence de pensée détermine la vie et la mort. Même après être né de nouveau, si l'on gère mal ses pensées, cela conduit finalement à la mort et produit des résultats terrifiants qui bloquent de l'histoire de l'Évangile ainsi que la destruction individuelle. De simples erreurs d'action peuvent être corrigées. Mais le fait que la pensée elle-même penche vers la chair et s'endurcisse signifie une ruine spirituelle. Par conséquent, moi compris, les ministres des églises à travers le pays, ainsi que tous les frères et sœurs, doivent graver profondément dans leur cœur cette parole « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains chapitre 8, verset 6. Ce n'est que lorsque nous choisissons des pensées spirituelles à chaque instant et que nous regardons Dieu, que nous pouvons jouir de la joie de l'unité et maintenir une vie bénie consistant à sauver des vies. Les personnes nées de nouveau doivent être très vigilantes dans la garde de leurs pensées et doivent garder à l'esprit que si elles gèrent de mal leurs pensées, elles finissent par atteindre la destruction. Toute personne peut avoir des pensées erronées en vivant, mais en de tels moments, il était nécessaire d'avoir une attitude consistant à accepter humblement les exhortations de ceux qui nous précèdent comme une parole donnée à moi par le représentant de Dieu. Car si l'on est capturé par des pensées charnelles, la résistance et la colère jaillissent de l'intérieur, conduisant à un état où l'on ne peut absolument pas écouter les paroles des autres. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a souligné que la pensée charnelle est la mort, tout en témoignant de l'évangile de l'eau et de l'esprit, est que si l'on place son objectif uniquement dans l'élévation charnelle, la reconnaissance et l'abondance matérielle, on meurt spirituellement et finit par périr. La Bible dit clairement que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Cela signifie non pas simplement un niveau où la relation devient distante, mais une opposition directe à Dieu. Si l'on regarde l'Église, Dieu, les frères et sœurs, et ceux qui nous précèdent uniquement d'un point de vue charnel, on ne peut jamais se soumettre à la loi de Dieu, et il devient également impossible d'abaisser son cœur pour s'unir. Paul a affirmé que « ceux qui sont dans la chair ne peuvent de pas plaire à Dieu ». Même un saint, né de nouveau, s'il donne la priorité uniquement au confort de sa propre chair sans penser à l'œuvre de Dieu, ni à Dieu lui-même, ne peut jamais plaire à Dieu. Cependant, nous avons l'espérance, qui est l'Esprit de Dieu demeurant en nous. Comme le dit la parole, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains chapitre 8, verset 9. Une personne qui possède l'Esprit de Christ est une véritable personne de Christ. Nous luttons parfois, capturés par des pensées charnelles, mais parce que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes des êtres qui ne peuvent jamais être complètement ruinés. En pensant à l'œuvre de Dieu et en accueillant de nouveau Dieu au centre de notre cœur, nous acquérons la force de nous échapper des pensées charnelles. Ce n'est que lorsque nous nous appuyons sur le Saint-Esprit et suivons des pensées spirituelles que nous pouvons surmonter les limites de la chair et vivre une vie bénie qui plaît véritablement à Dieu. Si nous réfléchissons profondément à Dieu, nous réalisons combien la grâce qu'il nous a accordée est grande. Dieu nous a non seulement donné le salut, mais il nous a aussi donné la vie éternelle, le paradis et le royaume de Dieu comme don. Il nous a adoptés comme enfants et a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs pour enlever tous les péchés. Bien que le processus de vivre dans la chair sur cette terre soit douloureux et difficile, puisqu'il nous a fait vivre pour l'Évangile et les œuvres justes et nous a guidés à vivre une vie sans honte devant le ciel, nous sommes ceux qui ont déjà reçu énormément de bénédictions. Si nous pensons à un tel Dieu, même si des pensées charnelles surgissent et que nous faisons face à des situations où notre cœur est blessé et où il est difficile de s'unir, nous ne pouvons jamais rester uniquement dans des pensées charnelles en regardant l'histoire de Dieu accordant la rémission des péchés et sauvant des âmes mourantes dans le monde entier même maintenant et en voyant les fruits de personnes à l'étranger entendant l'Évangile, étant sauvées et en voyant des salutations de gratitude, nous en venons à suivre Dieu au-delà de nos propres insuffisances. Avec un cœur qui demande « J'ai reçu tant de grâce, comment puis-je vivre uniquement pour la chair ?» Nous en venons à marcher de nouveau sur le chemin de la foi, en pensant à Dieu et à son précieux ministère. Pensez à Dieu, le secret de la vie spirituelle et de la victoire. L'apôtre Paul souligne qu'une personne sans le Saint-Esprit ne peut jamais penser aux choses de l'Esprit, mais qu'une personne qui possède le Saint-Esprit peut transformer ses pensées, même si elle est insuffisante. Nous pouvons parfois tomber dans des pensées charnelles erronées, mais si nous pensons d'abord à Dieu et rappelons son ministère au lieu de lutter pour changer nos pensées par notre propre force, nos cœurs se relient naturellement à Dieu et accomplissent l'œuvre de l'Esprit. C'est le principe par lequel la reconnaissance jaillit du fond du cœur en pensant à Dieu, et nous sommes transformés en ouvriers de la justice de Dieu. D'un autre côté, les personnes insensées et faibles finissent par tomber dans des pensées charnelles et font face à la mort spirituelle. Par conséquent, chaque fois que nous sommes captivés par des pensées charnelles, nous devons rapidement revenir au lieu où nous pensons à Dieu et à son ministère. Lorsque nous nous souvenons de la grâce que Dieu a accordée à chacun de nous, la reconnaissance est restaurée. Et lorsque nous réalisons combien son œuvre est précieuse, nous nous offrons volontairement au Seigneur même si nous sommes insuffisants. C'est là le véritable secret pour vaincre les pensées charnelles et vivre comme ouvriers de la justice de Dieu. L'esprit de l'esprit dont parle Romain signifie Dieu, et en même temps, notre propre esprit où demeure le Saint-Esprit. Bien que notre corps soit mort à cause du péché, notre esprit est vivant à cause de la justice par la foi en la justice de Dieu, et ceux qui possèdent en cette assurance du salut seront revêtus de la gloire ou même leur corps mortel ressusciteront au dernier jour. Puisque nous sommes ceux qui ont reçu l'amour extrême et le salut de Dieu, nous ne devons plus être vaincus par la chair, ni vivre selon la chair. Au contraire, nous devons vivre en pensant au Dieu Tout-Puissant d'amour, à son ministère et aux âmes qui meurent. Ce n'est que lorsque nous pensons à ces pensées spirituelles que nos corps et nos âmes peuvent jouir de la véritable vie, transmettre la vie aux autres et obtenir la paix du cœur. Nous vivons revêtus de la chair, mais nous ne sommes pas des êtres qui suivent uniquement la chair. Comme débiteurs de l'amour de Dieu, nous sommes ceux qui offrent nos corps comme instruments de l'Évangile en lui, rendant grâce pour cette grâce. Parce que la vérité appelée l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui a enlevé tous les péchés de l'humanité, est si étonnante et précieuse, nous nous consacrons à l'œuvre de proclamer ce salut de vie. Avoir une pensée spirituelle, c'est penser à Dieu, et cela signifie méditer sur le grand ministère du salut par lequel Jésus-Christ a éliminé les péchés de tous les hommes et participer à cette œuvre avec reconnaissance. Si nous unissons nos cœurs dans l'œuvre de proclamer ce fait étonnant que Dieu a sauvé toute l'humanité du péché, nous pouvons volontiers accomplir n'importe quel travail dans le monde. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, en qui habite le Saint-Esprit et des personnes de l'Esprit, il n'y a pas de place pour que s'installe un sentiment d'infériorité ou de misère dû aux conditions du monde. Si le cœur est pris dans la chair, on peut se comparer aux personnes qui possèdent richesses et gloires mondaines ou qui conduisent des voitures luxueuses et ressentir du sarcasme ou de la colère. Mais nous sommes des êtres nobles qui ne peuvent être comparés à eux. Nous sommes des ouvriers de justice qui prêchent la bonne nouvelle de Dieu qui a enlevé les péchés de toute l'humanité. Même si une personne possède beaucoup d'argent et une position élevée dans le monde, si elle n'a pas reçu le salut, elle n'est finalement qu'un enfant de perdition. Même si les gens du monde agissent grossièrement ou jugent selon notre apparence extérieure, nous ne devons pas perdre notre fierté spirituelle. Lorsque nous rencontrons des personnes qui dépassent de manière déraisonnable ou menacent sur la route, la colère peut surgir avec des émotions charnelles, mais si nous regardons spirituellement la misérable réalité dans laquelle se trouvent leurs âmes, nous pouvons plutôt les plaindre. Nous ne devons pas être influencés par les valeurs du monde qui se dirigent vers la destruction, mais tenir fermement aux pensées spirituelles que Dieu nous a données et accomplir jusqu'au bout la noble mission de sauver des vies. Les gens du monde vivent en ne pensant qu'à la chair et à leur orgueil présent, mais nous qui sommes nés de nouveau ne devons pas oublier que nous sommes enfants de Dieu et serviteurs de justice qui sauvent des vies. Bien que notre apparence dans la réalité puisse sembler insuffisante, nous sommes convaincus qu'une plus grande gloire et des bénédictions nous attendent dans l'avenir. Et nous deviendrons ceux qui riront à la fin au jour du retour du Seigneur et recevrons des récompenses suffisantes. Parfois, la colère surgit face à la grossièreté du monde et la rage monte face à l'attitude injuste de ceux qui nous ignorent parce que nous conduisons de petites voitures, mais nous devons rejeter fermement de telles pensées charnelles et valeurs séculières. Nous sommes des rois spirituels qui ont reçu l'amour immérité de Dieu et il reste encore énormément de précieux ministères de Dieu à accomplir sur cette terre. Plutôt que de vivre uniquement pour le confort de ma propre chair, il faut prendre la décision d'accomplir l'œuvre de Dieu, même si l'on est insuffisant. La différence de pensée selon laquelle que je vive, que je meure ou que je périsse, je vivrai uniquement pour Dieu et son évangile fait de nous de véritables personnes de foi. Comme la confession « Car si nous vivons pour le Seigneur », Romains chapitre 14, verset 8, lorsqu'il y a une foi ferme pour vivre pour Dieu, nous pouvons surmonter la tentation de la chair. En regardant les ministres et les frères et sœurs à travers le pays, je ressens de la compassion, car beaucoup sont profondément capturés par des pensées charnelles et meurent spirituellement. Nous aussi, nous tombons souvent dans des pensées charnelles sans nous en rendre compte, mais chaque fois que cela arrive, si nous nous souvenons immédiatement de Dieu et de son ministère, nous pouvons rapidement revenir à la vie. Dans une situation où les ouvriers, pour servir l'Évangile, manquent, au lieu de choisir la voie de la chair et devenir une personne insensée qui s'oppose à Dieu, nous devons devenir des personnes sages qui corrigent la direction de leurs pensées et reçoivent de l'aide de Dieu. Si nous fixons nos pensées sur Dieu et plaçons notre cœur dans son ministère, nous devenons naturellement des personnes de justice sans même lutter pour y parvenir. Parce que le Saint-Esprit est déjà dans nos cœurs et que nous sommes clairement enfants de Dieu, nous pouvons être transformés en personnes spirituelles dès que nous pensons à Dieu. Lorsque nous pensons correctement, nos yeux brilleront et nos visages rayonneront comme le soleil et nous vivrons une vie où nous portons de justes jugements et choisissons des chemins bénis. Nous devons prendre comme une leçon sévère, à travers le cas de Lot, le fait que ceux qui ont quitté l'Église ont été ensevelis dans des pensées charnelles et ont finalement atteint la mort spirituelle. Aucun de nous ne peut être une exception à ce danger. Si quelqu'un persiste dans des pensées charnelles et avance, n'importe qui quittera l'Église et finira par se tenir dans la position d'opposer Dieu. Par conséquent, nous devons regarder pleinement vers le Dieu vivant et nous souvenir toujours de son grand amour qui a envoyé son Fils unique sur cette terre pour sauver toute l'humanité du péché. Puisque Dieu nous a confié ce précieux ministère de sauver l'humanité, nous devons vivre en pensant à Dieu chaque jour et en considérant son œuvre comme la priorité absolue. Parce que nous sommes le peuple de Dieu et ceux qui ont la mission de le glorifier, même si nous sommes insuffisants, nous devons nous tenir dans les rangs de la foi en servant Dieu et suivre le Seigneur jusqu'à la fin. L'esprit dont il est aux questions ici signifie Dieu. Par conséquent, nous devons penser uniquement à Dieu, consacrer notre cœur à son ministère et garder une foi et une espérance inébranlables. Dieu sera avec nous pour toujours et il nous remplira abondamment des bénédictions nécessaires pour nos âmes et nos corps. Lorsque nous espérons en Dieu et croyons, je suis convaincu que le Seigneur nous bénira par une grâce qui nous aide au moment du besoin. Je conclus toutes ces paroles en espérant sincèrement que les innombrables bénédictions préparées par Dieu abonderont sur nous tous et sur toutes les églises à travers le pays.